Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ces ondes de l'amitié et de fraternité de Radio Téhéran en ce mercredi 6 juillet 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le renforcement des liens entre l'Iran et le Venezuela et la résistance active contre les pays impérialistes conduirait à la victoire, a dit le président iranien. En Syrie, plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion mardi 5 juillet d'un engin explosif planté par des individus inconnus au nord-ouest d'Ir'a. 6 soldats nigériens ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 juillet au cours de l'attaque menée par une cinquantaine de terroristes contre le poste militaire de Blabrine, au sud-est du Niger, près de la frontière avec le Tchad. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que le renforcement des liens entre l'Iran et le Venezuela et la résistance active contre les pays impérialistes conduiraient certainement à la victoire. Dans un message adressé mardi 5 juillet au président vénézuélien Nicolas Maduro, Ebrahim Raisi a déclaré qu'il était convaincu que la victoire serait obtenue en élargissant les relations bilatérales et en utilisant le modèle de résistance active face aux exigences excessives des pays impérialistes. Il a adressé ses félicitations au président et au peuple vénézuélien à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, qui rappelle les efforts de Simón Bolívar, héros de l'indépendance et dirigeant politique de la fin du 19e siècle en Amérique du Sud, en faveur de la liberté du Venezuela et d'autres États d'Amérique latine. Le chef de l'exécutif iranien a exprimé l'espoir que Téhéran et Caracas amélioreraient encore leurs relations amicales stratégiques et mettraient en œuvre les accords précédemment conclus entre eux. Lors d'une visite du président vénézuélien en Iran le mois dernier, Téhéran et Caracas ont signé un accord de partenariat de 20 ans visant à renforcer la coopération dans divers secteurs, notamment dans les sciences, la technologie, l'agriculture, le pétrole et le gaz, la pétrochimie, le tourisme ainsi que la culture. Le président iranien a également félicité dans un message son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de ce pays. L'établissement et la poursuite de relations cordiales entre les deux pays depuis les premiers jours de l'indépendance de l'Algérie sont le fruit de la sagesse et du zèle des dirigeants des deux pays et de l'existence de points communs historiques, religieux, culturels et politiques entre les deux nations, a déclaré le président iranien. Il a exprimé l'espoir que l'Iran et l'Algérie verraient le développement des liens d'amitié et de coopération dans tous les domaines, dont le secteur économique, pendant le mandat d'Abdelmadjid Tebboune. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a tweeté ce mercredi matin 6 juillet après sa conversation téléphonique mardi soir avec le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Un accord n'est possible que sur la base d'une compréhension et d'intérêts mutuels. Nous restons prêts à négocier un accord solide et durable. Les États-Unis doivent décider s'ils veulent un accord ou s'ils s'en tiennent à leurs exigences unilatérales, mutuellement exclusives. Pour sa part, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a tweeté, après ce contact téléphonique, « L'espace politique pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien pourrait bientôt se rétrécir. Si nous voulons conclure un accord, des décisions sont nécessaires maintenant », a écrit Borrell sur Twitter, ajoutant qu'il était encore possible de relancer le plan d'action globale conjoint. Lors d'une conversation téléphonique avec la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lundi 4 juillet, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que nous sommes sérieux et honnêtes afin d'atteindre un accord bon et stable. Et nous avons toujours présenté nos idées positives dans les négociations. Mais la partie américaine n'a participé au pourparlers de Doha sans une approche basée sur l'initiative et le progrès. En Syrie, plusieurs personnes ont été blessées dans l'explosion mardi 5 juillet d'un engin explosif planté par des individus inconnus dans un quartier dans la localité de Yadouda, au nord-ouest d'Héra. La correspondante de Sana, l'agence de presse officielle syrienne d'Héra, a indiqué qu'un engin explosif planté par des personnes à l'identité inconnue avait explosé près d'une des pépinières dans le quartier central de la localité, ce qui a fait plusieurs blessés d'une seule famille, dont un est dans un état critique. La Russie continue de renforcer ses forces dans les régions du nord-est de la Syrie avec l'arrivée de 500 militaires affiliés à la division des parachutistes de l'armée russe à bord des avions militaires dans la ville de Ramishli, dans la campagne de Hasake. Le déploiement des soldats russes vise à accroître les préparatifs de l'armée russe contre d'éventuelles opérations militaires de la Turquie et de ses mercenaires affiliés dans cette région. Fin mai, la Russie a envoyé de nouveaux avions de chasse et hélicoptères militaires à sa base de l'aéroport de Ramishli. Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, a exprimé lundi son mécontentement face aux actions de la Russie en réponse à d'éventuelles opérations turques dans certaines parties de la Syrie. Les développements surviennent alors que le porte-parole du Kremlin a déclaré mardi 5 juillet, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, que contrairement aux Américains, l'armée russe est stationnée dans ce pays à l'invitation des autorités syriennes. N'oublions pas qu'il y a après tout une différence sérieuse entre la présence des Américains là-bas et notre présence. Notre contingent est installé là-bas en pleine conformité avec le droit international à l'invitation des dirigeants syriens, mais les Américains n'ont pas une telle invitation, a souligné le responsable du Kremlin. L'euro a cédé du terrain face au dollar mardi 5 juillet, atteignant son plus bas niveau depuis 20 ans, à 1,029 $. Sous la pression de la menace de récession dans la zone euro. La monnaie unique partagée par 19 États membres de l'Union européenne a continué de s'affaiblir, perdant plus d'1% face au dollar des États-Unis. Le taux de référence de l'euro face au dollar s'établissait à 1,04155 selon la Banque centrale européenne BCE. L'euro a baissé de plus de 9% face au dollar depuis le début de l'année selon la BCE. L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier, PMI, qui mesure l'orientation des tendances économiques, a chuté dans la zone euro à 52,1 en juin contre 54,6 en mai. L'inflation dans la zone euro a marqué une hausse, ce qui pourrait affecter la confiance des ménages et peser sur la croissance économique, selon les observateurs. Le taux d'inflation annuel dans la zone euro s'est envolé à 8,6% en juin contre 8,1% en mai, a indiqué le Bureau des statistiques de l'Union européenne. La BCE a mis fin en juin à son programme de rachat d'obligations et envisage de relever ses taux d'intérêt en juillet. Néanmoins, les obligations souveraines de certains États membres, tels que l'Italie, ont enregistré une hausse considérable depuis l'annonce de la décision de la BCE de relever ses taux. 6 soldats nigériens ont été tués et 14 blessés dans la nuit de lundi à mardi, 5 juillet, au cours de l'attaque. 5 juillet au cours de l'attaque menée par une cinquantaine d'extrémistes présumés contre le poste militaire de Blabrin, sud-est du Niger, près de la frontière avec le Tchad, a annoncé le mardi 5 juillet le ministère de la Défense. Le bilan provisoire fait également état de 17 morts côté ennemi, tandis que des armements et munitions ont été récupérés par les forces armées qui ratissent la zone, a précisé le ministère dans un communiqué lu à la radio publique mardi soir. Il n'a pas précisé l'identité des assaillants, souvent pointés comme étant des terroristes Boko Haram ou du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Selon le ministère, l'attaque a été menée dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juillet, aux environs d'une heure du matin, mais la réaction des soldats a permis de repousser l'attaque et de mettre l'ennemi en déroute. C'est la seconde attaque en trois jours dans le sud-est nigérien, après celle de dimanche, au cours de laquelle un soldat est mort dans un assaut mené par des éléments de Boko Haram à Garindogo, près du Nigeria. Blabrin est situé dans le département de Ngouigbi, région de Diffa, et frontalier avec le Tchad. Sa base militaire a été plusieurs fois visée depuis 2015 par des attaques terroristes. En mai 2020, 12 soldats nigériens y ont été tués et 10 blessés lors d'une attaque attribuée à Boko Haram, selon un bilan officiel. Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens avaient été déjà tués et 8 blessés lors de l'attaque de cette même base. Le Soudan et le Soudan du Sud ont signé mardi 5 juillet un protocole d'accord qui facilitera la circulation des biens et des services entre les deux pays et servira de guide alors que les deux pays se préparent à ouvrir leurs frontières. Selon Ayi Akol Madout, commissaire général des services des douanes du Soudan du Sud à l'autorité fiscale nationale, le document facilitera le flux de marchandises vers la capitale Juba dans les plus brefs délais et fournira également une concurrence pour les produits importés au Soudan du Sud depuis l'Afrique de l'Est. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les États-Unis dans l'impasse, aussi bien dans le domaine militaire que le commerce et l'industrie. Les États-Unis sont partout en retraite, en défaite ou dans l'impasse, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine du commerce et de la production industrielle, a écrit la revue américaine The National Interest. Malheureusement, il est loin d'être clair que Poutine perdra réellement la guerre. Si, à la suite d'un compromis négocié ou d'une impasse prolongée, une grande partie de l'Ukraine reste indéfiniment sous occupation russe, alors, malgré les coups, Poutine aura réussi un revanchisme territorial en Ukraine, en plus d'avoir annexé la Crimée et d'être entré en guerre avec succès pour empêcher une adhésion de la Géorgie à l'OTAN, a souligné Michael Lind, auteur de l'article pour The National Interest. Au niveau mondial, la campagne américaine pour amener d'autres nations à sanctionner la Russie pour la punir d'avoir envahi l'Ukraine a été un échec. Les pays qui ont sanctionné la Russie sont composés des États-Unis et du Canada, de l'Europe, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La plupart des pays du reste du monde, y compris l'Inde, le Mexique et le Brésil, ainsi que la plupart des pays d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique, ont refusé de suivre la politique américaine, note l'analyste. Alors que le Congrès vote en faveur de la livraison d'armes pour saigner la Russie dans une guerre par procuration en Ukraine, partout ailleurs dans le monde, les États-Unis chancellent après une série de défaites stratégiques humiliantes. Après deux décennies de combats en Afghanistan, Washington l'a brutalement abandonné aux talibans dans un bagout encore plus chaotique et embarrassant que la chute du Sud-Vietnam. Dans l'Irak, pour Saddam, la présence américaine restante est contestée par de nombreux Irakiens. Le Parlement irakien a récemment adopté une loi punissant la normalisation des liens avec Israël par la mort ou la réclusion à perpétuité. en Syrie, Bachar al-Assad a survécu à la guerre de Washington pour le destituer. Le renversement de Muammar Kadhafi en Libye par les États-Unis et l'OTAN a produit le chaos et la désintégration. Vous vous souvenez de la place Tahrir ? L'armée est de retour aux commandes en Égypte, peut-on lire dans l'article. Plus loin dans ses propos, Michael Lind a précisé que le principal adversaire des grandes puissances américaines est la Chine. La nouvelle que les États-Unis manquent de missiles Javelin et Stinger pour réapprovisionner l'Ukraine pourrait confirmer ceux à Pékin qui pensent que l'Amérique est un tigre de papier. En allusion à la rivalité sino-américaine, l'analyse souligne que la Chine est en train de faire retirer Washington de la scène dans divers domaines. Pendant ce temps, la Chine chasse les États-Unis et leurs alliés d'un marché mondial après l'autre. En 2010, la Chine a dépassé l'Amérique en tant que premier fabricant mondial. En 2021, la Chine a dépassé la Corée du Sud en tant que premier constructeur naval mondial, précise l'analyste. Partout où nous regardons, nous voyons donc les États-Unis en retraite, en défaite ou dans l'impasse, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine du commerce et de la production industrielle. Depuis la chute de Saïgon, à l'exception des victoires militaires en Irak et en Libye qui ont conduit au chaos, les seules victoires militaires et géopolitiques durables de l'Amérique et de ses alliés se sont déroulées en Europe. L'un était la libération sans effusion de sang de l'Europe de l'Est de l'Armée rouge et l'incorporation d'une grande partie de celle-ci dans l'OTAN. Une autre fut la défaite de la Serbie dans la guerre de succession yougoslave. Incapable de résister aux tactiques du salami chinois en mer de Chine méridionale et incapable de convertir des victoires militaires à court terme en victoires diplomatiques durables au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la politique étrangère américaine n'a connu de succès qu'en Europe, poursuit The National Interest. Et là la liste de conclure. On m'a dit que les Allemands ont un proverbe sur le travail dans une hiérarchie de bureaux. Inclinez-vous devant, donnez un coup de pied derrière. C'est une bonne description de la stratégie mondiale actuelle de l'Amérique pour masquer son déclin accéléré. Tout en apaisant une Chine puissante et montante dans la pratique, les États-Unis se battent avec des pays faibles, la Serbie, l'Irak, la Syrie, la Libye. Les États-Unis sont une force en déclin dans le commerce mondial et dans la diplomatie mondiale.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 1er juillet 2022. La Russie et la Chine ont fermement réagi à la nouvelle feuille de route stratégique de l'OTAN adoptée à l'occasion du sommet de l'alliance militaire qui s'est achevé hier, jeudi à Madrid. Le président russe Vladimir Poutine a fustigé les ambitions impériales de l'alliance militaire qui cherche, selon lui, à affirmer son hégémonie par le conflit, en effet, ukrainien. Le président Poutine a prévenu que la Russie réagirait si l'OTAN venait à déployer ses forces et installer des infrastructures en Suède et en Finlande lorsque les deux pays nordiques auront rejoint l'alliance transatlantique menée par les États-Unis. La Chine a également fustigé les efforts vains de l'OTAN pour la salir et accusé l'alliance militaire d'avoir les mains couvertes de sang. À noter que lors de leur sommet à Madrid, les dirigeants de l'OTAN ont déclaré que les politiques et les liens étroits de Pékin avec la Russie constituaient un défi majeur pour les intérêts et la sécurité de l'alliance militaire. Les pays de l'OTAN ont par ailleurs validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental de l'alliance qui va porter à 300 000 militaires, les effectifs de ces forces à haut niveau de préparation. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur ce sommet de l'OTAN à Madrid, la réaction de la Russie et de la Chine et bien entendu la perspective des évolutions à venir, notamment sur fond, bien entendu, du conflit ukrainien. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Moscou et Pékin ont fait front commun contre l'Alliance Atlantique dont le sommet s'est achevé jeudi. Les pays leaders de l'OTAN souhaitent affirmer leur hégémonie, leurs ambitions impériales, a fustigé mercredi soir le président russe Vladimir Poutine lors d'un déplacement à Ashgabat, la capitale turkmène. L'appel à l'Ukraine à poursuivre les combats et à refuser les négociations ne fait que confirmer notre hypothèse que l'Ukraine est le bien du peuple ukrainien, ce n'est pas l'objectif de l'Occident et de l'OTAN, mais un moyen de défendre leurs propres intérêts, a-t-il insisté. Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs affirmé que Moscou n'avait aucun problème avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, mais que le Kremlin réagirait avec force si l'alliance militaire occidentale déployait des troupes et des infrastructures dans ce pays une fois qu'il deviendrait membre. Selon Poutine, l'adhésion porterait un coup inévitable aux relations de Moscou avec Helsinki et Stockholm. La Chine a dénoncé jeudi les efforts complètement vains de l'OTAN pour la salir après la publication la veille par l'alliance militaire d'un document présentant Pékin comme une menace pour ses intérêts. Ce prétendu document de concept stratégique de l'OTAN fait peu de cas de la réalité et présente les faits à l'envers, a réagi Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il s'obstine à tort à présenter la Chine comme un défi systémique et à salir la politique étrangère chinoise, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse régulière, soulignant la ferme opposition de Pékin. L'OTAN a jugé mercredi que Pékin représentait un défi pour les intérêts et la sécurité des pays de l'Alliance dans sa nouvelle feuille de route adoptée à l'occasion de son sommet de Madrid. L'OTAN dénonce en particulier le partenariat stratégique approfondi entre Pékin et Moscou et leur tentative mutuelle de miner l'ordre international basé sur la règle.
On va tout de suite se rendre à Damas pour rejoindre Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Michel.
Alors, le temps fort de l'actualité internationale, ce sommet des pays de l'Alliance transatlantique qui s'est achevée hier à Madrid et l'évolution importante, justement, alors l'adoption de ce nouveau concept stratégique, de cette nouvelle feuille de route stratégique qui qualifie la Russie de menace directe et la Chine de défi pour les intérêts et la sécurité de l'Alliance transatlantique. Dans quelle mesure cette nouvelle feuille de route stratégique de l'OTAN et son approche vis-à-vis de la Russie et de la Chine va en effet à modifier la donne géopolitique internationale sur fond de crise ukrainienne?
Écoutez, je dirais à titre préliminaire que le document en question n'est en fait qu'un copier-coller de la posture stratégique adoptée par le Pentagone dès janvier 2021, qui a toujours mis en avant effectivement l'alliance russo-chinoise, soi-disant les puissances révisionnistes, hein, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, comme étant les défis stratégiques des États-Unis. Donc au départ, comme l'OTAN est avant tout les États-Unis au niveau du financement et au niveau de l'équipement et des forces armées sur le papier, ce n'est qu'une transposition quelque part de cette doctrine stratégique du département de la défense US dans un format otanesque. Et donc dans ce contexte-là, c'est une forme de mise à jour, comme vous le dites, sur fond d'élargissement de l'OTAN en Europe, et maintenant c'est officiel à la Suède et à la Finlande. Et dans le contexte asiatique, on notera que étaient invités au sommet de l'OTAN à Madrid quatre pays de la sphère asiatique, à savoir donc le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, on peut voir que l'OTAN avance ses pions. On est maintenant bien au-delà de ce que l'Alliance était supposée être lors de sa création en 1949, une alliance purement défensive, pour être devenue maintenant une espèce d'outil au service de l'hégémonie finissante états-unienne, qui s'efforce par un jeu de contrôle politique de pays dans lesquels ils exercent une certaine influence depuis des décennies, de lier tous ces pays d'une manière ou d'une autre pour les contenir dans un premier temps, les mettre en ordre de bataille, avec cette idée de contenir l'émergence inexorable du compact eurasiatique co-dirigé plus ou moins par Moscou et Pékin.
Merci infiniment pour ces précisions. Maître Develle, rester avec nous. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et à Maître Develle. Le bloc américain occidental, parce que l'OTAN, ce n'est que ça, ce sont les vassaux des États-Unis réunis dans une alliance qui n'est pas militaire, mais qui est une alliance de vassalisation politique et géopolitique. Et les alliés européens et asiatiques des États-Unis a fait preuve d'une erreur stratégique majeure. Les Romains appelaient hubris cet excès de confiance qui poussait une partie militaire à s'engager dans le chemin de la défaite. C'est ce qu'ont fait les États-Unis en provoquant une guerre sur deux fronts, à la fois contre la Russie et contre la Chine. On sait que Napoléon a perdu la guerre en Europe lorsqu'il s'est engagé à la fois contre la Grande-Bretagne et contre la Russie. L'Allemagne a perdu la guerre de 1914-18 en la menant sur deux fronts. Hitler a perdu la guerre en la menant celle de 1940-45.
Nous avons visiblement un souci de liaison avec Luc Michel, donc en attendant que notre contact soit rétabli, on va continuer avec Maître Develle. Maître Develle, pour Monsieur Michel, là il s'agit l'adoption de cette nouvelle feuille de route. S'agit d'une erreur stratégique. Alors Moscou aussi a réagi justement, a pointé du doigt l'agressivité de l'OTAN. Alors la question qui se pose, donc là, en toute évidence, il paraît que c'est une déclaration de guerre ouverte, non seulement contre la Russie, mais aussi contre la Chine. Quelles seront les répercussions de cette erreur stratégique des pays membres de l'OTAN, bien entendu menée par les États-Unis?
Oui, j'allais compléter en fait ce que semblait faire allusion à Luc Michel. Effectivement, c'était donc les Grecs, enfin plutôt les Romains, mais les Grecs qui avaient conceptualiser ce concept de hubris, donc cette arrogance complètement disproportionné, mais il faut savoir que l'hubris est souvent précédé, enfin souvent précède ce qu'on appelle némésis, donc le retour de bâton. Et dans ce contexte-là, effectivement, ces déclarations intempestives, conceptualisées dans des formats où on ne peut plus officiels, ne peuvent être interprétées par Moscou et Pékin que comme des déclarations bellicoses. Ce faisant, Moscou a pris le soin de prendre note, effectivement, du fait que rien n'empêche la Suède et la Finlande, pour ne parler que d'eux, de rejoindre l'Alliance, mais que pour peu que l'Alliance, maintenant, procède de la manière qui semble logique, à savoir mettre en place des installations militaires et des troupes dans ces pays, Moscou se devra de répondre. Sachant que dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu que Moscou savait prendre acte d'une situation, et pour peu que cette dernière soit de nature existentielle quant à la sécurité de la Fédération de Russie, Moscou saura réagir. Donc on peut parfaitement extrapoler cette analyse à ce qui se passerait dans l'éventualité d'une tête de pont otanesque dans la région asiatique. Pékin ne souhaite simplement rappeler les obligations de ce qui avait été mis en avant début des années 70 lors de la visite de Kissinger à Pékin, à savoir que Taïwan, pour ne parler que de ce dossier, est une partie intégrale de la Chine. Et ce faisant, toute tentative par des puissances extérieures à la région de remettre en cause ces traités et cette doctrine serait vouée à l'échec. Et donc Pékin prendra ses responsabilités. Même si officiellement il a été mis en avant que la participation à ces quatre pays, donc encore une fois Japon, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, portait plutôt sur les allégations comme quoi la Corée du Nord était sur le point de réactiver ses activités portant sur un programme intercontinental balistique et donc nucléaire. On sait très bien qu'en toile de fond, c'est Pékin qui est visé avant tout. Donc Pékin n'est pas naïf, et on peut penser que prétentions, ces déclarations intempestives, ces battements de poitrine sont pris en compte, que ce soit à Pékin ou à Moscou, comme malheureusement étant porteurs d'une perception qui laisse entendre que l'OTAN, non seulement dans le contexte ukrainien, n'a pas l'intention de jouer l'apaisement, de privilégier la diplomatie, mais qu'au lieu de cela, maintenant, on semble s'orienter vers une autre expansion de l'OTAN dans une région qui lui est complètement, si on s'en tient en tout cas au nom de l'Alliance Nord-Atlantique, complètement hors sujet. Donc, l'OTAN plus que jamais se révèle comme étant un outil que les États-Unis utilisent. Merci. Pour retarder leur perte d'hégémonie et donc, partant de là, l'émergence du monde multipolaire.
Merci, merci encore. Nous sommes en ligne avec Luc Michel. Monsieur Michel, le président Poutine a menacé de réagir justement si l'OTAN venait à déployer des militaires et installer des infrastructures dans les deux pays, en effet, nordiques, à savoir la Suède et la Finlande. À quoi pourrait ressembler la réaction de la Russie, M. Michel, et quel en sera l'impact, notamment sur le cours des événements en Ukraine?
Écoutez, l'OTAN prétend qu'il assure la sécurité de ses membres, mais en réalité, il met cette sécurité en grave danger. En déployant des troupes aux frontières de la Russie, ils vont obtenir une réponse symétrique. C'est-à-dire que la Russie va déployer des troupes, mais va également déployer des armes nucléaires tactiques. C'est déjà ce qui se passe à Kaliningrad, dans l'enclave à côté de la Lituanie. C'est cela qui va se passer, puisque des accords viennent d'être conclus avec Loukachenko, Bélarus, pour doter l'armée du Bélarus d'armes nucléaires stratégiques. Donc la sécurité des membres de l'OTAN va gravement endommagée. Il faut constater que l'OTAN, évidemment, n'a qu'une réponse militaire. L'extension de l'OTAN à l'Est, mais c'est pas ça qui est là, pourtant, c'est pas l'extension à la Finlande et à la Suède, puisque les armées de la Finlande, de la Suède, mais également de la Suisse, ne sont plus neutres, et elles étaient déjà intégré à l'OTAN avec du matériel OTAN. Ce qui est en jeu, c'est l'extension de l'OTAN à ce qu'on appelle l'OTAN du Pacifique, avec le Japon et l'Australie qui vise directement la Chine. La Russie, c'est l'adversaire immédiat, mais la Chine, c'est l'adversaire principal. C'est évidemment un militarisme excessif qui va appeler les gens de l'OTAN à la catastrophe, évidemment. Déjà en 2015, lorsque l'OTAN a déployé des articulés et des radars en Roumanie et en Pologne, elle a dirigé les missiles nucléaires russes directement vers le territoire roumain et vers le territoire polonais. En 2015, j'avais déclenché avec une tribune sur le média soutique, j'avais déclenché en Roumanie un scandale international, puisque j'ai fait la une de toutes les télévisions roumaines pendant 3 mois, j'avais expliqué aux Roumains, à qui on ne l'avait pas expliqué, qu'en choisissant d'accueillir les armements de l'OTAN, ils s'étaient désignés comme une cible des missiles nucléaires russes, ce qui avait évidemment refroidi l'opinion publique. C'est ce qui va se passer pour tous les nouveaux pays de l'OTAN, la Finlande, la Suède, mais également l'Allemagne, la Lituanie. À Kaliningrad, les Russes vont déployer des armes nucléaires qui pourront toucher jusque Amsterdam, Rotterdam, Berlin, bien entendu, et pas seulement Vilnius en Lituanie ou Varsovie en Pologne. Voilà ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, c'est un facteur de guerre au niveau international, et en particulier en mer Noire et en mer de Chine.
Merci infiniment, Monsieur Michel. Maître Develet, donc, alors, les pays de l'OTAN, lors de leur récente réunion, non seulement ont validé un renforcement de leur présence militaire sur le flanc oriental, mais aussi ont promis, en effet, des milliards de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a même tenté de faire croire que dans les mois à venir, l'Ukraine pourrait avoir un avantage militaire sur la Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de faire durer la guerre en Ukraine avec la multiplication, en effet, de la vente et des livraisons d'armements sophistiqués à l'Ukraine, Maître Develet?
Je dirais qu'il y a deux approches, l'une qui s'embrique dans la première. La première, bien sûr, c'est quelque part l'enrichissement du complexe militaro-industriel qui, dans le contexte d'un accord de prêt, Lend-Lease, hein, comme qui avait été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale, ils se débarrassent de leurs arsenaux actuels, ce qui leur permettra de ensuite pouvoir justifier des demandes de budget auprès du Congrès. Donc tout ça, c'est une question de business hein, pour les fabricants d'armes. Je noterai aussi que pour beaucoup de membres de la classe politique américaine corrompue jusqu'à l'os, c'est une manière aussi de blanchir de l'argent au travers de politiques officielles adoptées au sein du Congrès pour mieux ensuite récupérer les rétrocommissions. Sur un plan doctrinal, écoutez, je m'en tiens aux déclarations il y a quelques mois de cela de Lloyd Austin qui avait lui-même déclaré que l'objectif était de faire perdurer le conflit en Ukraine afin d'affaiblir la Russie. Donc les objectifs doctrinaux sont parfaitement établis. L'objectif, si des gens en doutaient encore, c'est de pressuriser la Russie, d'isoler le continent européen de la Fédération de Russie, créer un nouveau rideau de fer quelque part et préserver l'aire d'influence des États-Unis en Europe. Et ce faisant, dans la façon dont ils voient les choses, en tout cas, fragiliser le pouvoir russe avec l'espoir d'un changement de régime en interne.
Merci encore. Alors, je ne sais pas si nous sommes toujours en ligne avec M. Michel. M. Michel, vous êtes toujours avec nous?
Voilà. Je suis toujours là, monsieur.
Voilà. Alors, en deux, trois minutes concernant justement, parce que c'est la première fois que l'OTAN, en effet, qualifie la Chine de défi de taille pour ses intérêts et sa sécurité. Donc, alors, cette nouvelle approche de l'OTAN, qu'est-ce qu'il va changer sur la scène des relations internationales et plus particulièrement dans les relations entre la Chine et les pays européens?
Écoutez, un militarisme exacerbé et des tensions supplémentaires envers noir dans toute l'Europe centrale et envers de Chine et envers du Japon. L'OTAN, c'est donc un facteur d'instabilité mondiale, mais c'est le but des Américains, puisque les Américains sont décidés à aborder en position de force la Troisième Guerre mondiale et donc cherchent ce militarisme. Qu'est-ce qui va arriver, bien entendu? C'est la fin du nouvel ordre mondial, qui était basé sur une domination américaine, mais sur le commerce avec la Russie et avec la Chine. La Russie, c'est l'atelier du monde. On va rompre les relations commerciales, en particulier de l'Europe avec les Chinois, mais on rompt également les relations commerciales dans le domaine des hydrocarbures avec le principal fournisseur de l'Europe. C'est d'ailleurs le but des Américains. Les Américains ont un agenda double. D'une part, un agenda géopolitique militaire contre la Russie et la Chine, mais un agenda économique contre l'Europe. Les Américains sont donc gagnants à court terme, ils sont perdants à long terme. Je voulais expliquer en entête de cette émission, c'est une erreur stratégique majeure de vouloir faire la guerre en même temps sur deux fronts. Maintenant, tout cela va conduire à un monde instable et le monde va déboucher vers un monde multipolaire. Face à l'OTAN et à son pendant économique, le G7, il y a maintenant l'organisation de coopération de Shanghai, Moscou, Pékin et l'Iran. Il y a les BRICS qui sont en train de s'étendre, mais il y a également la revitalisation des États non alignés, l'héritière de la Yougoslavie, de Tito, de l'Égypte de Nasser et de l'Indonésie de Soekarno dans les années 60. Vous avez vu que l'Indonésie organise le prochain G20 en novembre et elle a invité en personne Vladimir Poutine qui a l'intention de s'y rendre. C'est une gifle qui est adressée par ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui le monde multipolaire, à ce monde occidental, arrogant, qui ne comprend pas que le cycle géopolitique de sa domination absolue est terminé depuis les années 2015.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, maître Arnaud Develay, juriste international, analyste politique depuis Damas. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Voilà, merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Le secret bien gardé des dettes publiques. Afin de comprendre ce processus en détail, il faut prendre une loupe pour observer les mécanismes de la monnaie américaine. Le lecteur non versé dans la finance devra peut-être lire ce qui suit à plusieurs reprises pour bien saisir le processus de création monétaire par le système des réserves fédérales et les institutions bancaires. Cela relève d'un quasi-secret commercial que garde jalousement l'industrie financière. Étant donné que le gouvernement ne détient plus le pouvoir de battre monnaie, mais qu'il ne peut émettre que des obligations, puisque la dette nationale est utilisée comme garantie par la Réserve fédérale, ce n'est qu'en passant par la Fed et d'autres banques commerciales qu'ont émis la monnaie, de sorte que la source du dollar provient de la dette nationale. Henry Ford a dit « Si les gens connaissaient le fonctionnement du système bancaire, la révolution aurait lieu demain matin. Les lignes du chapeau sortiraient du livre « La guerre des monnaies ». Elles décrivent tout le processus de transformation de la dette en monnaie. L'exemple donné est le dollar américain. Mais le procédé se reproduit à l'identique dans tous les pays ou zones ayant une banque centrale indépendante. Une série d'opérations pour créer de la monnaie à partir de rien. L'acte premier est l'approbation par le Congrès d'émettre des obligations par le Trésor américain. Passons sur les différents types d'obligations. Il y en a trois, qui sont à échéance d'un an, de 10 ans et 30 ans. Elles sont proposées sur les marchés aux plus offrants. Celles qui ne trouvent pas preneur sont envoyées à la Fed, qui les inscrit dans son bilan dans la colonne actif. Cette dette nationale est utilisée en garantie des futurs impôts encaissés par le gouvernement. Elle est donc la garantie la plus fiable possible. En regard de la colonne actif, et pour l'équilibrer, la Fed crée une somme équivalente dans la colonne passif, qui représente les chèques imprimés par la Fed. Notez bien que cette étape clé ne part de rien, car ces chèques, qui peuvent être sous forme de billets de banque, ne sont adossés à aucune monnaie. C'est une étape dont la conception est raffinée et le camouflage complet, dont l'existence permet au gouvernement de mieux contrôler l'offre et la demande lors de la vente aux enchères des obligations. La Fed touche des intérêts sur l'argent prêté. Le gouvernement obtient facilement de la monnaie, mais il n'y a pas beaucoup de traces révélant l'impression de monnaie. Les tours de passe-passe de la Fed permettent d'équilibrer les livres de compte entre les actifs de la dette nationale et les passifs monétaires. C'est vraiment cette étape simple mais cruciale qui crée la plus grande injustice au monde. Les futurs impôts des gens qui sont tenus en garantie par le gouvernement permettent à la banque centrale de fixer la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent qui sera créé par les banques commerciales. Et le gouvernement est redevable d'une somme énorme d'intérêt sur de l'argent créé à partir de rien. Une injustice totale qui s'opère en 4 points. Les futurs impôts, n'étant par définition pas encore payés, ne doivent pas servir de garantie, car l'argent qui les génère n'a pas encore été gagné. Cela ne peut qu'impliquer une baisse du pouvoir d'achat et une dévaluation de la monnaie au détriment de l'épargne. C'est encore pire lorsqu'il s'agit d'une banque centrale privée, FED, BOE ou BCE, car les banquiers propriétaires n'ont pas sorti le moindre centime de leur poche. Le gouvernement doit payer des intérêts énormes qui sont en réalité payés par les contribuables. La deuxième étape de la monétisation de la dette est la réception des chèques et des billets par le gouvernement. Par magie, ils retournent ensuite à la banque centrale sous forme de dépôts du gouvernement qui les dépose sur les comptes de la FED, Fed ou des autres banques centrales. La troisième étape est l'utilisation de cet argent par le gouvernement. Ceux qui le reçoivent le déposent sur leur compte et la banque les comptabilise en tant que dépôt. Du point de vue comptable, cet argent est mis en passif car il est dû au déposant. Mais c'est également un actif qui peut permettre d'accorder un crédit. Les comptes sont donc équilibrés. Mais grâce au système des réserves fractionnaires, les banques peuvent créer en proportion de l'argent à partir de rien qui va rapporter des intérêts. Enfin, la quatrième étape consiste à transformer les dépôts bancaires en réserves bancaires. Dans ce tour de bon taux, les dépôts devenant des réserves qui permettent à la banque, en accord avec la Fed, de ne geler que 10% en réserve et prêter les autres 90%. Le danger d'un tel système, c'est que les déposants engagent eux-mêmes leurs dépôts bancaires. En réalité, la plupart des prêts bancaires sont émis à partir de rien, c'est-à-dire de l'argent qui n'existe pas. et cette création, ex nihilo, peut se poursuivre sans limite, par vagues successives. Si cette création monétaire dépasse les besoins de l'économie, l'offre et la demande sont alors déséquilibrées et ce déséquilibre ne peut être compensé que par l'inflation. Le système devient alors instable car l'inflation génère une baisse du pouvoir d'achat qui entraîne une réduction de la demande. En réalité, tout ce système ne tient que par la confiance que les gens mettent dans la monnaie qui leur permet d'acquérir des biens ou de payer leurs dépenses. C'est pour cela que cette monnaie est appelée fiduciaire. Fiducia signifie confiance en l'État. Que cette confiance vienne, pour une raison ou pour une autre, à manquer et tout le système s'effondre. Pour cette raison, un certain nombre de monétaristes recommandent de revenir à un système de monnaie non endetté. Dans ce système, la création monétaire ne peut se faire qu'en contrepartie de richesses économiques effectivement créées. Il est beaucoup plus stable car il ne génère que très peu d'inflation, contrairement au système actuellement en vigueur dans nombre de pays occidentaux.